Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un puits, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut, vous êtes bien dans Vacarme en réunion. Salut Hector.
Salut.
Alors hier, il y a eu une putain de manif. Non ?
Ah ouais, une énorme manif.
Enfin, hier, il y a sûrement eu une putain de manif, quoi.
Mais ouais, mais elle a déchiré. Ouais, sûrement.
Parce que bon, nous, là, on est jeudi parce qu'on enregistre. Mais vous, vous serez dimanche. Enfin, vous êtes maintenant dimanche.
Et du coup, hier, il y avait une manif à Nantes.
Et on espère que ça aura été une putain de manif. Alors, hier, il y avait une manif qui s'est déroulée dans Nantes, qui devait normalement regrouper des milliers de personnes. Et qui était une grosse manif de défense de la ZAD, donc de la zone à défendre qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes, du coup juste au-dessus de Nantes. Alors la semaine dernière, dans Terrain Vague, les copains, ils ont rappelé toute l'histoire un peu de cette zone qui est en lutte. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette manif ?
Bah en fait, il y a eu une espèce d'annonce médiatique en décembre de la part de la préfecture, de Vinci, etc., qui a annoncé que l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes commencerait, quoi, que les travaux seraient entrepris dans l'hiver. Et ça a mis dans l'esprit de tout le monde que c'était perdu, que l'aéroport se construirait. Et là, la manif, elle tombe un peu bien pour comme une contre-attaque, quoi, où, en fait... Tout le monde là-bas est encore bien déterminé à ce que l'aéroport ne se fasse pas. Là-bas et d'ailleurs dans plein d'autres villes en France, il y a des comités qui sont encore prêts à se mettre en action dès qu'il y aura quelque chose de l'ordre de l'expulsion ou des travaux qui commencent. Et la manif, du coup, c'est un peu pour dire, pour montrer que tout le monde est là et que l'aéroport, ce sera pas aussi facile que ça de le construire. Quoi.
Alors moi j'espère qu'il y a eu des milliers de gens, j'espère qu'il y a eu des tracteurs, j'espère qu'il y a eu des structures gigantesques un peu cheloues, j'espère qu'il y a eu une bonne ambiance, j'espère qu'il a pas plu. Et je pense que vous trouverez plus d'infos du coup pour le coup ailleurs ou alors sur notre site, parce que maintenant on peut mettre des choses en lien et vous pouvez aller réécouter aussi l'émission de Terrain Vague qui explique du coup un peu mieux toute l'histoire de la ZAD, et vous pouvez trouver tout ça sur notre blog qu'on vient de créer qui s'appelle tvnr.noblogs.org. Du coup TVNR comme Terrain Vague Vacarme en Réunion, parce qu'il y aura à la fois les émissions de Terrain Vague et celles de Vacarme en Réunion, et puis on mettra tous les matériaux qu'on cite souvent à l'antenne, on les mettra là, ce sera possible de les retrouver là-dessus. Voilà, voilà pour Nantes. Hector, tu voulais nous parler du CRA de Vincennes.
Alors ouais, jeudi dernier, là, le 13 février, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu une énorme émeute. C'est les termes de la préfecture.
Alors, au CRA, quoi.
Ouais, genre au centre de rétention de Vincennes, le centre où sont mis les sans-papiers qui sont arrêtés en attente d'être expulsés. Et Vincennes, le CRA de Vincennes, il est connu pour avoir déjà vécu pas mal d'émeutes, de révoltes, dont la plus importante qui était en juin 2008 où un bâtiment entier du centre de rétention a été incendié. Alors dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a des sans-papiers qui se sont barricadés dans leur baraquement et qu'on commence à lancer des projectiles sur les gardiens, dont des extincteurs. Alors ils ont réagi tout de suite, hein. Il y a 23 équipes d'intervention de la police qui sont rentrées dans le centre de rétention, plus des équipes de la BAC de nuit, et qui ont assez vite rétabli l'ordre. Avec un surnombre pareil, c'était un peu facile. Et ils ont fait quelques interpellations et après ils ont mis tout le monde dans la cour, ils ont fait une fouille intégrale de tout le monde. Alors on n'a pas de nouvelles des interpellés, on sait pas... Voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais en tout cas, c'est assez régulier des révoltes de ce type dans les centres de rétention. Par exemple, rien que pour l'année 2013, il y a eu 60 000 euros de dégâts de tout genre pendant les révoltes des sans-papiers qui sont à l'intérieur du centre.
Et puis on peut redire qu'en Italie, en ce moment, il y a des centres de rétention qui n'arrêtent pas de fermer grâce aux révoltes des retenus. Il y a plusieurs centres qui ont déjà été fermés parce qu'ils ont été quasiment entièrement détruits par des révoltes et des émeutes.
Ouais, c'est plus de la moitié des centres qui ont fermé.
Plus de la moitié, ouais. Mmh. Ah, y a une grosse lutte pour la fermeture des centres en Italie. Et puis voilà, elle ne fait que s'augmenter et qu'être victorieuse. On espère que Avincennes aussi, ils arriveront au bout du centre à force de révolte. Pour finir avec l'actualité, moi j'ai lu cette semaine dans le journal qu'il y avait un jeune Malien, un type qui a 18 ans apparemment, qui s'est fait arrêter cette semaine parce qu'il a été contrôlé dans le bus, qu'il n'avait pas de ticket, et que du coup il a essayé de s'échapper et qu'il a été rattrapé par l'agent de Divia, que la BAC a débarqué, qu'ils l'ont arrêté et qu'ils l'ont embarqué. Et qu'il avait pas, enfin il a refusé de montrer sa carte d'identité, et c'est pour ça qu'il a été mis en garde à vue. Du coup, ça c'était jeudi à 22h, et j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur cette information. Du coup, je me disais que s'il y avait des gens qui avaient vu quelque chose, ou alors si lui-même il nous écoutait, il pouvait nous écrire à vnr@riseup.net. Ou nous laisser des commentaires sur le site dont j'ai parlé, pour qu'on essaye de parler un peu de ce qui s'est passé et voir si c'est possible de faire quelque chose pour lui. Voilà. Voilà. Et du coup, c'est tout pour l'actualité. Et on va écouter une chanson de Bolo qui s'appelle Je vois. C'est pour Islam, un détenu qui est à la maison d'arrêt de Dijon. C'est pour introduire, puisque aujourd'hui, on va parler un peu plus précisément de la maison d'arrêt de Dijon. Voilà, Is, c'est pour toi.
À travers les trous d'une cagoule, je vois un monde carré. Ça tourne pas rond, y'a que des arrêts. Je vois les types se barrer en couille, pupule, y'a embrouille, ça sort le tarpé. Je vois des bonhommes, mais plus de taspés. Je vois que des suspects, y'a plus de suspense. On sait qui sont les deux traits. Je vois qu'en prison c'est chargé. Dehors, y'a trop de monde recherché. Je vois des potes changer. Je vois que l'argent met l'amitié en danger. Je vois que des mecs fâchés. Comment être content quand t'es fauché? Je vois le succès, mais pas moyen de le toucher. Pas moyen de succès pour t'approcher. Je vois qu'on peut perdre la vie sans être âgé. Je vois personne à jeun. Drogue et alcool, c'est le quotidien. Je vois qu'on peut manger du ferme sans rien faire. T'es matio l'Indien. Je vois les flammes de l'enfer nous brûler les ailes. C'est pour ça que nos rêves vont pas loin. Je vois qu'on s'en fout de vos lois. On déteste la volaille. On a prêt à voler avant de marcher. Je vois Chétan au volant et les anges
restent cachés. Je vois la guérison se barrer, la haine se cristalliser en bas de la chaîne alimentaire. Je vois les miens expulsés. Tout a l'air déjà joué. La sélection naturelle elle est déjà faite. Mec, t'as plus qu'à tenir le coup. Je vois que la vérité c'est l'insomnie quand j'ai pas de niax. Je vois que la vérité c'est qu'à la base on s'en sort pas. Je vois que la France est sélective et méchamment conservatrice. Bolo, je vois qu'on n'est pas sorti de la mer.
Je vois comme toi. Si, si. Je vois que je suis pas seul à avoir la rage. On est trois à avoir les yeux rouges. Je vois pas la vie en rose. Travaille au noir et avec l'État, y'a pas de drapeau blanc. Je vois pas de sel bleu, tout est gris. Il pleut dans ma ville comme ça répleut. Je vois que les malheureux font des heureux. Sur les pauvres, ça gratte des euros. Je vois comme Cascamine, je vais pas jouer l'aveugle pour eux. Je vois que ce système est pourri jusqu'à l'os. Je veux pas finir ma vie ici comme mon rêve. Je veux mourir au Laos. Je vois qu'on est de passage, alors je profite, même si c'est la hesse. Pas le temps de la hesse. Je vois qu'on a rien sans rien, alors je bouge mes fesses. La vérité ça blesse, comme une pêche dans ta face. Je vois qu'on peut tuer quelqu'un avec quelques phrases. 20 piges fermes, qui aimerait être à sa place. Je vois des mecs canner leurs femmes parce qu'elles jouaient la pétasse. Je vois qu'on est pas à l'abri d'un sale coup de crasse. Tu peux être celui qui se mange un gros coup de crosse. Je vois des choses atroces, les problèmes nous attirent. Je vois tout le monde à terre quand ça tire. Je vois plus de baston, on règle nos histoires à coups de bastos.
Je vois la guérison se barrer, la haine se cristalliser en bas de la chaîne alimentaire. Je vois les miens expulsés, tout a l'air déjà joué. La sélection naturelle est déjà faite, mec t'as plus qu'à tenir le coup. Je vois que la vérité c'est l'insomnie quand j'ai pas de niax. Je vois que la vérité c'est qu'à la base on s'en sort pas. Je vois que la France est sélective et méchamment conservatrice.
bolo, je vois qu'on n'est pas sorti de la mer.
Je vois ce que mes yeux reflètent, je fais mon linge par la fenêtre. Je vois ce que la télé veut pas mettre, je vois des parages tous les 100 mètres. J'ai qu'un message, qu'ils aillent se faire mettre. Je vois les darons pleurer les absents, nous c'est qu'après qu'on regrette. Regarde, je vois le temps passer, faut qu'on bombarde. La vie est courte, en sachant que les bons partent les premiers. Je vois que c'est les fils de pute qui s'en sort, alors j'aurai l'un de ces promis. Je vois qu'on veut me censure, je t'emmerde tant que je tiens le chromis. Je vois trop d'MC, y'en a qui préfèrent fermer leur gueule et rester assis. Je vois mes ennemis, mais pas mes amis. Je compare pas mes potes et la famille. Je vois dans tous les ghettos, sacré famine. Je vois tes frères tomber dans la farine. Montana, Mesrine, Escobar, ça nous fascine. Les trois sont morts, miskin. Je vois la faucheuse nous faire signe. Faut qu'on se range avant que notre heure sonne. Faut de l'argent, mon ange, cousine. Je vois que les jours se ressemblent, c'est la routine. Je te parle plus pour une poignée de centimes. Je vois qu'il n'y a plus de sentiments. On se fait du mal, gentiment, gentiment.
Je vois la guérison se barrer, la haine se cristalliser. En bas de la chaîne alimentaire, je vois les miens expliquer. Tout a l'air déjà joué, la sélection naturelle est déjà faite. Mec, t'as plus qu'à tenir le coup. Je vois que la vérité, c'est l'insomnie quand j'ai pas de niaque. Je vois que la vérité, c'est qu'à la base, on s'en sort pas. Je vois que la France est sélective et méchamment conservatrice. Bolo, je vois qu'on n'est pas sorti de la mer.
Je vois comme toi, gars, Camille. Ghetto Carnage, remix. Kaskami, à la prod, K.O. Sensei, ha, 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 RGT, clan, on est là, je vois.
Ouais, comme tout le monde est à Nantes ce dimanche, on s'est dit que les seuls qui resteraient à Dijon, c'était les prisonniers de la maison d'arrêt. Du coup, on s'est dit qu'on allait parler de la maison d'arrêt. Alors, du coup, cette maison d'arrêt, elle a été construite en 1852. Et elle a été construite d'abord pour faire une gestion départementale, et elle a été cédée à l'État qu'en 1945. Et elle a 111 places pour les hommes, elle a 11 places pour les mineurs et 33 places pour les femmes. Alors ça, j'imagine que c'est les places administrativement prévues, parce qu'en fait, quand tu lis l'histoire de la maison d'arrêt, il y a toujours eu une surpopulation là-bas. Du coup, je sais pas comment ils font, si en fait les cellules qui étaient prévues pour un, elles finissent par être pour deux, ou enfin, je sais pas trop comment ils font pour ajouter des gens, mais ça doit être des trucs comme ça. Et par exemple, jusque avant 1980, le taux d'occupation de la prison, il était supérieur à 250%. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait deux fois et demi plus de prisonniers que ce que la prison elle était prévue, quoi. Du coup, c'était un peu hard, quoi. Bon, maintenant, elle est toujours suroccupée, hein. Aujourd'hui, le taux de suroccupation, c'est 165%. Du coup, il y a toujours 1,5 prisonniers pour une place, quoi. En gros. Voilà. Et en gros, on n'a pas trouvé grand-chose de très passionnant sur l'histoire de cette maison d'arrêt. Mais en 1996, il y a eu une mutinerie. du coup, c'était le 7 avril 1996. Alors, sur Internet, ils présentent ça comme quand même une des plus grosses mutineries qu'il y a eu dans les prisons ces dernières années en France, quoi. Du coup, ça devait quand même un peu avoir la classe. Et, du coup, le 7 avril 1996, il y a un détenu qui ceinture un surveillant de retour de la promenade. Et il y en a un autre qui lui chope les clés, quoi. Et j'ai pas très bien compris comment s'enchaînaient ensuite les événements. Sur Internet, ils disaient juste que ça partait d'un petit groupe de gens, d'un noyau dur qui avait prévu un peu une émeute et qu'il y avait plein d'autres gens qui les avaient suivis. Mais je me méfie un peu parce que c'est souvent ce que dit la justice a posteriori, quoi, de désigner quelques personnes qui ont vraiment préparé ça et des suiveurs, quoi. Du coup, j'arrive pas très bien à savoir si c'était quelque chose qui était préparé par tout le monde ou pas. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui ont participé à ça. Et du coup, la maison d'arrêt a été saccagée ce jour-là et il y a eu des feux qui sont partis à plusieurs endroits dans la prison. Et du coup, il y a eu des grands renforts de gendarmerie ce jour-là. Et 8 heures après le début de la révolte, il y a une évacuation totale de la prison. Tout le monde est sorti, il n'y a plus personne dedans. Et du coup, j'ai pas réussi à trouver qu'est-ce que ça avait été les sanctions sur les gens qui s'étaient révoltés ce jour-là. En tout cas, la prison reste fermée pendant 3 ans, parce que à cause des incendies, il faut faire des grosses rénovations, il faut faire plein de travaux, et du coup, elle ne rouvre qu'en 1999. Et ce qui est assez drôle, c'est que même sur les... Enfin, c'est un peu ambigu, mais j'ai trouvé ces informations-là, en gros, sur des sites qui présentent toutes les maisons d'arrêt de France, et qui sont plutôt des sites où il y a des forums en ligne de gens qui vont aux prisons, etc. Du coup, il y a de familles de prisonniers. Et puis aussi, il y a des informations qui viennent de sites qui mettaient en question le fait qu'elle va peut-être être démolie, cette prison, pour en reconstruire une autre par ailleurs. Et dans ces deux endroits-là, il semblait dire que grâce à cette révolte, les conditions de détention se sont améliorées après. Du coup, c'est un truc qui est un peu ambigu, parce que du coup, et à la fois le site, il expliquait cette révolte par le fait que il y avait des mauvaises conditions de détention, comme si en fait s'il y avait des bonnes conditions de détention, on n'avait pas de raison de se révolter. Et en même temps, ça mettait en avant que grâce à ces émeutes-là, il y avait eu des améliorations ensuite, parce que quand la prison a été rénovée, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qui avait provoqué ces révoltes-là, et que on s'était dit que les conditions de détention étaient vraiment trop mauvaises, et que c'est ça qui avait provoqué la rébellion des détenus. Voilà. En gros, moi, c'est toutes les informations que j'ai trouvées sur cette prison. Par contre, il y a quelques mois, on avait interrogé quelqu'un qui avait fait 2 mois de prison, je crois, à cette maison d'arrêt. Et du coup, on a des enregistrements. Peut-être, Hector, tu peux nous redire dans quelles conditions lui, il a été arrêté, etc.
Ouais. Il a été arrêté pendant une manif lycéenne en octobre 2008. Faut savoir que il avait déjà été arrêté pendant le mouvement CPE. Du coup, sa tête était connue des policiers, et il était un peu, il l'avait dans le collimateur. Et en fait, cette manif lycéenne, donc le 15 octobre 2008, elle était organisée par une coordination lycéenne dijonnaise, qui était une coordination de plusieurs lycées de Dijon qui avait été créée en avril 2008. Il y avait déjà eu un début de mouvement au printemps. Et il y avait une centaine de 100 personnes à la manif. Et en fait, tout au long du trajet, la tension est montée pendant la manif. Il y a des poubelles qui ont commencé à être renversées. Il y a des gens assez déterminés qui faisaient partie du cortège. Et arrivé à un rond-point, en fait, il y a une voiture qui a voulu traverser la manif en forçant le passage. Et il y a quelqu'un qui a brisé la vitre de la voiture. Et du coup, le propriétaire de la voiture est sorti et a essayé de choper la personne qui avait pété la vitre. Et en fait, la personne qui a été arrêtée, elle s'est juste intercalée pour que le propriétaire de la voiture rentre dans sa voiture et parte. Et qu'il n'y ait pas d'altercation entre les deux personnes. Et les policiers qui sont arrivés à ce moment-là ont vu que lui qui intervenait dans la situation. Du coup, ils l'ont chopé, lui. Et ça fait que, comme il le connaissait déjà, en plus, il a servi un peu de bouc émissaire pour cette manif-là.
D'accord. Voilà. Bon, on va écouter l'extrait.
Ils m'ont rattrapé devant sur l'esplanade de la gare. Où ils m'ont attrapé à 4 en jonglant avec leur tonfa, histoire qu'il n'y ait pas de méchants étudiants avec leurs mains qui viennent les agresser. Donc, après garde à vue, etc. Comparaison immédiate le lendemain. Le jour de la comparaison immédiate, c'est le jour où notre cher ancien président de la République, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, avait fait un grand discours en disant qu'il fallait des peines exemplaires contre tous ces jeunes qui. Ça révolte un peu trop. Donc condamnation, j'ai une condamnation là de 1 mois ferme.
C'était quoi ton chef d'inculpation ?
Chef d'inculpation, c'était très marrant. Jet de projectile, entre parenthèses, âme par destination, entre parenthèses, pierre, fermez toutes les parenthèses, en direction de force de l'ordre. Donc c'est même pas sur force de l'ordre, c'est en direction de force de l'ordre. Et donc ça, c'était donc la première fois. Donc j'ai fait. Donc j'ai pris 1 mois. Sachant que les policiers n'ont fourni aucune vidéo, c'était moi, mais aucune vidéo, aucune photo, et en gros, il n'y avait personne dans la partie civile. Mm-hmm. Donc, deuxième fois, donc c'était il y a octobre 2008. Manifestation lycéenne, place du 30, lycéen qui bloquait avec une banderole. Le mec il s'est énervé, qui a commencé à foncer dedans. Donc on a essayé de le calmer, etc. Mon mec a redémarré. Enfin, j'ai attrapé son rétroviseur, le rétroviseur m'a assis en la main. La BAC, etc., qui ont chargé, qui m'ont embarqué, qui ont embarqué deux autres personnes. Donc après garde à vue, 46 heures en garde à vue. Et deux jours après, comparaison immédiate. Et chef d'occupation, c'était violence et dégradation récidive. Enfin, sur les trois, on a eu deux avoir eu 4 mois ferme, et le troisième a eu 4 mois, dont 2 avec sursis.
Et avec mandat de dépôt, genre, du coup, tu sors de la comparution immédiate, qui t'emmène directement.
Le jugement a été donné, je suis remonté dans le fourgon de police et directement donc ça, sans pouvoir rien dire ni à mes colocs, ni à la famille qui était dans la salle, quoi. Donc après, donc arrivé Renoxon, donc il y a donc les 10 jours de cellule arrivante, qui sont donc le temps pour que soit moi ou le parquet fasse appel à la décision, ce qui n'a pas été fait. Pour la cellule arrivante, t'as pas de parloir. Pour la plupart des gens, t'as pas de vêtements, etc. Et t'as pas de sous. Il te file un petit pactage avec brosse à dents, rasoir, papier à lettres, enveloppe, puis un stylo. C'est le minimum, on va dire, pour eux. Donc, quand tu arrives à prison, tu es accueilli par un maton qui déjà t'a la fouille, donc qui te prend tes papiers. La monnaie que t'as sur toi, il le note dans ton pécune. Puis après, il te file ta couverture, tes draps, enfin, dans le pactage de base, quoi. C'est ici, dans le pactage, t'as un espèce de livret vite fait tes droits, et puis toutes les obligations que t'as après de la prison. Après, pendant les 10 jours, tu vois un médecin, t'as un rendez-vous avec un psy... aussi, avec tes conseillères SPIP.
Et là, à ce moment-là, c'était un cellule individuel
Non, c'est cellule arrivant, c'est par deux. Donc après, au bout des 10 jours, ou plus, parce que ça dépend s'il y a de la place dans les bâtiments, etc. Donc après, tu montes en bâtiment. Après, pour Dijon, il y a sur les bâtiments, donc t'as un bâtiment qui est pour les prévenus, c'est-à-dire donc ceux qui sont pour avoir été jugés. T'as un bâtiment condamné, t'as un bâtiment pour les travailleurs.
Et c'est chaque bâtiment a des promenades séparées après aussi. Pour les travailleurs entre eux, les prévenus entre eux et les détenus entre eux.
C'est ça. C'est même...
Et les femmes et les hommes.
Bah déjà, les femmes et les hommes, déjà, c'est pas la. C'est pas le même bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment femmes.
En promenade, tu te croises jamais?
Non. Mais jamais, jamais.
Oui. Et les détenus, tu dis, ils venaient pas tous de Dijon, ils venaient de... Mais c'était surtout des gens du coin, quoi.
Bah, oui, la plupart du temps, oui.
Parce que c'est les peines maxi... c'est une maison d'arrêt, du coup, il y a des peines maximales.
C'est moins théoriquement, c'est moins d'un an. Je dis bien théoriquement, parce qu'en fait, t'as des gens qui sont condamnés à plus, mais vu qu'il n'y a plus de place, soit en centrale, soit en ce pénitencier, ils sont en maison d'arrêt en attendant qu'il y ait une place qui se libère. C'est pour ça qu'en maison d'arrêt, tu peux te retrouver à... C'est moi ce qui m'est arrivé. À 3 dans une cellule, déjà 9 mètres carrés à 2 c'est dur, mais à 3, sachant que c'est un matelas au sol, et donc c'est ranger le matelas tous les matins et le ressortir tous les soirs. Mmh. Parce que la prison, donc la maison d'arrêt de Renoxon, c'est une ancienne caserne. Et donc en fait, c'est un long couloir sur 3 étages, avec des chambres de 9 mètres carrés, tout alignées sur chaque côté du couloir. Sachant que ta cellule, t'as une grosse porte en fer avec un hutton qui est accessible que de l'extérieur. Mmh. Donc non, tu vois. Et entre chaque bâtiment, t'as les cours de promenade. Donc tu vois vite fait, on va dire, un côté du bâtiment en face.
Depuis ta fenêtre, tu vois.
Ouais. Mmh. Qui est ta fenêtre qui est à la hauteur de l'île du tunnel superposé, qui fait à peu près 1 mètre sur 80 cm de haut. Avec grille et grillage arrière.
permettent d'échapper un peu à toutes ces espèces de contraintes.
Donc tu tombes sur un codétenu avec qui tu t'entends, c'est très content. Là, tu passes quand même 22 heures avec lui. Et quand tu travailles pas, ouais, c'est ça, tu passes 23 heures, 22 heures avec lui. Dans 9 mètres carrés.
S'il y a une entente, ça peut créer des choses, quoi.
Ça permet que le temps passe plus vite et que ce soit moins difficile. C'est-à-dire quand tu as une entente, tu peux partager la cantine, on va dire. Ou quand tu n'as plus de cigarettes ou plus de coca, on emprunte à ton plus détenu et puis qu'on lui rendra après.
Et pendant les moments de promenade, tu peux discuter avec les autres personnes, non ?
Tu peux discuter avec, enfin, si t'as des affinités avec les autres. Après, c'est aussi le moment où beaucoup de choses se passent. C'est-à-dire que c'est aussi le moment où, comme à la douche, où tu peux te faire défoncer la tête, tu peux te faire planter, tu peux te faire racketter, voilà. Mais ça peut aussi très bien se passer. C'est aussi le moment où t'as plus de cigarettes, les deux codétenus ont plus de cigarettes, tu peux en emprunter. C'est aussi le moment où tu peux emprunter une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine, t'as une feuille de cantine, donc avec un savon meilleur que ce qui te file à l'entrée. Ouais, donc après, t'as tout ce qui est nourriture. Parce qu'en fait, il y a deux cantines. T'as une cantine donc, toutes les semaines, et une fois par mois, t'as ce qui s'appelle la cantine extérieure. Et c'est là où tu peux acheter. On dirait un poste de radio, paire de baskets neuves.
Dans les cantines.
Il n'y a pas d'alcool. Pas d'alcool à la prison. Pas une goutte d'alcool.
Il n'y a pas des manières artisanales de distiller des trucs.
Alors, ce qui se fait, c'est bouteille d'eau, avec des bouts de pommes, d'orange, etc., du sucre, et poser sur les radiateurs avec de la mie de pain.
Quoi, pour la vin.
J'ai pas goûté, mais c'est un truc qui est apparemment. Et d'après ce qu'on m'a dit, dégueulasse, mais c'est de l'alcool.
Il y en a pas mal dans des inventions comme ça, artisanales.
D'un autre côté, quand tu sais que le cendrier, tu le payes. Ouais. T'as une canette de coca, tu fais un cendrier avec. Une plaque électrique ou un truc pour chauffer. Prends une boîte de carton, tu mets de l'huile, la serpillière, t'enroules les canettes et tu te fais une chauffe. Une bouilloire, tu la payes. Donc tu prends le fil électrique et tu fais une résistance et tu la mets sur la prise de la télé. C'est ce qui se fait ailleurs de tout le bâtiment parce que ça a disjoncté sur tout le bâtiment et il faut que le maton renclenche. Voilà, la frise.
Il n'y a jamais eu de moment où tout le monde se met à gueuler.
Le jour de l'an.
Et là, le jour de l'an, il s'était passé un truc particulier pour que ça se mette à gueuler ou juste.
Déjà, c'est le jour de l'an. Après, comme tous les ans, les gens qui font les feux d'artifice. Il y a des mecs qui disent mais tiens, ce soir il y aura un feu d'artifice, là il y a des mecs extérieurs. Mais le mec qui fait le feu d'artifice, c'est un pote à moi, donc oui. Si, après ça tape aussi quand il y a des matchs de foot.
Et dans ces moments-là où ça tape collectivement, et où, donc du coup, il y a, je m'imagine, un peu une forme de dépassement, quoi. Ils essaient de ramener un espèce d'ordre.
Pour des trucs comme ça, ils laissent faire. Après, quand c'est un détenu qui pète un plomb et qui tape sur la porte pendant toute la nuit, ils réagissent quand même. Moi, j'ai déjà vu, déjà juste pour une personne qui fout le bordel, les matons d'autres bâtiments arrivés. Même malgré les grillages, tu peux quand même faire passer un yo-yo. Enfin, qu'est-ce qu'un yo-yo ? Enfin, un bout de gras avec des clopes, pour passer d'un étage à un autre. Soit d'envoyer des messages entre deux niveaux.
J'aurais même pas imaginé ce que ça peut être le genre de message que tu peux faire passer.
Genre, j'ai croisé machin en promenade, il m'a dit de te passer ça. J'ai vu machin en promenade, il a vu tel pote et puis il passe tel message. T'as des gens qui se connaissent de quartier ou de. Soit d'affaires judiciaires, soit d'autres affaires.
Et eux, ils arrivent à s'organiser entre eux ou...
Enfin, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils s'organisent déjà pour faire rentrer des choses de l'extérieur, etc. Que ce soit des portables, du shit.
Ça, ça passe comment par les matons ?
Ça passe surtout par les parloirs. Le grand jeu pour les visiteurs, de réussir à faire passer, parce qu'eux, ils se font fouiller avant le parloir, etc. Et après, pour le détenu, de réussir à passer la fouille après le parloir. L'autre façon de faire rentrer des trucs, c'est pendant les promenades, c'est bouteille d'eau ou balle de tennis.
Par-dessus l'enceinte.
Voilà, parce que Dijon, il y a les bâtiments d'EDF qui sont quasiment collés au mur, et donc où t'as une cour quasiment de l'autre côté. Quoi. Mm-hmm. Donc il faudrait s'en faire passer par-dessus le filet et les grillages. Et après, il faut qu'à l'intérieur, ça soit récupéré très vite. Ouais. Et t'es filmé et t'as un maton qui surveille directement aussi. Donc j'ai une fois une bouteille qui est passée, c'est un troupement machin, un truc qui disparaît, et t'as les matons qui arrivent peu de temps après et qui fouillent tout le monde. Parce que t'as aussi une fouille en venant prendre. C'est risqué. Après, rien n'est impossible. C'est pas pour 20 grammes de shit que tu vas faire ça, quoi.
C'est quand même difficile à imaginer quel moyen on a vraiment concret, quoi, pour aider les gens qui sont à l'intérieur, etc. Quoi.
Si, bah ouais. Informer de, genre, les gens de l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Ceci réussir à informer les gens qui sont à l'intérieur, à savoir leurs droits et malheureusement leurs devoirs aussi quelquefois. Alors, sachant qu'il y a en prison, tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la famille à l'extérieur avec beaucoup de sous. Donc t'as des gens qui sont en Dijon, qui peuvent pas continuer. Qui va pas continuer tout court.
Toi, si t'avais un pote en prison, qu'est-ce que tu ferais ?
Si j'avais un pote en prison, bah déjà, ce que je ferais, c'est déjà lui écrire. Donc, quand t'es en prison, déjà, recevoir un courrier juste pour parler de la vie, juste recevoir une lettre en disant, bah tiens, il fait beau, je suis allé promener, j'ai bu des coups avec des potes, voilà. Enfin, regarde à l'extérieur, tu sembles des trucs complètement niais et inutiles. À l'intérieur, c'est quand même super. C'est intéressant, c'est à toi de parler de la vie. Ça te permet de te dire, eh ben, là j'ai un temps où je suis sorti de la société et de la vie, mais elle continue toujours derrière et dehors. Et... Après, c'est s'il ne bosse pas, c'est lui garantir de quoi continuer à la base, c'est-à-dire en gros en moyenne c'est 150 euros par mois.
Voilà un petit aperçu de l'ambiance dans la maison d'arrêt de Dijon. Alors, la chanson qu'on a passée entre les deux extraits d'interview, c'est une musique du film Zelda 211, une musique de Roque Baños. Zelda 211, en fait, c'est un film qui raconte l'histoire d'un futur maton qui, la veille de prendre son poste, visite la prison dans laquelle il doit travailler. Et en fait, la prison étant assez pourrie, il se prend un truc sur la tête et il tombe, il s'évanouit. Alors les matons qui lui font visiter la prison, ils l'emmènent dans un lit sur une cellule pour essayer de le réanimer. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a une mutinerie qui se déclenche dans la prison. Et les matons, ils l'abandonnent, du coup ils partent de la prison, ils l'abandonnent là. Et le futur maton, il se fait passer pour un prisonnier. Et du coup, on suit toute son aventure avec les prisonniers mutinés. Et cette histoire, elle est pas
mutin,
mal.
Mutin, non, du coup. Ouais.
Cette histoire, elle est pas mal parce que il se rend compte petit à petit de tous les rouages qu'il y a derrière la prison, les rapports entre la hiérarchie, les matons, les prisonniers, l'extérieur, l'intérieur. Et petit à petit, en fait, il se sent beaucoup plus proche des prisonniers tout au long du film.
Alors, il paraît qu'il y a une des choses qui pourrit bien la vie des détenus à la maison d'arrêt de Dijon, parce que, à part ça, quand on arrive à avoir des infos sur ce qui se passe à la maison d'arrêt, la plupart ils disent que c'est une maison d'arrêt, c'est pas une centrale, et du coup, ils sont plutôt sur un truc de pas se plaindre et de dire qu'il y a quand même moyen de gérer. Il y a quand même quelques trucs, à part évidemment l'ambiance générale qui est pourrie, quoi. Mais il y a quelques détails comme ça qui mettent en avant comme des trucs qui leur gâchent bien la vie par rapport à d'autres prisons en France. Et un des trucs principaux, par exemple, c'est le fait que la bouffe qu'on sert à la prison, elle est pas halal, alors que il y a presque 80% des prisonniers là-bas qui sont musulmans, quoi. Et du coup, en fait, la plupart des gens ils refusent les plateaux repas, ou alors ils bouffent pas la bouffe qui est préparée pour eux. Et du coup, ça fait qu'ils sont obligés de cantiner tout ce qu'ils bouffent, quoi, et de se faire à manger dans leur cellule. Et du coup, cantiner en prison, le cantiner, ça veut dire acheter des trucs qui proviennent de l'extérieur. Parce que quand t'es détenu, t'as le droit tu peux acheter. Tu fais tes commandes en début de semaine et tu payes, quoi, et tu peux obtenir des produits qui viennent de l'extérieur, même si t'as une liste très spécifique que t'as pas le droit de tout cantiner. Mais voilà, tu peux te faire ramener des produits pour faire à manger dans ta cellule. Et du coup, en fait, la plupart, presque les trois quarts des prisonniers qui sont là à la maison d'arrêt Dijon, ils font ça parce qu'ils mangent pas la bouffe de la cantine. Et du coup, ça leur coûte super cher. Et en plus, il y a quand même plein de produits que tu peux pas cantiner. Par exemple, ici, eux, ils ont pas le droit de cantiner de la farine. Et ils ont pas le droit, par exemple, de cantiner de la viande non plus, quoi. Et du coup, va te faire à manger sans farine, c'est assez compliqué, quoi. Moi, je me souviens une fois, quelqu'un qui m'avait expliqué que un des substituts de la farine en prison, c'est, par exemple, de faire de la farine avec des chips. de les tasser en tout petits bouts et d'essayer de faire une pâte avec ça, quoi. Et du coup, il paraît que ça donne de la cuisine un peu créatrice et puis que ça invente des nouvelles choses, quoi. Et voilà. Sinon, on me disait aussi que l'imam, il passait une fois tous les deux mois, quoi. Alors que normalement, la loi prévoit qu'il passe tous les 15 jours. Et que ça, c'est un truc qui est pas du tout respecté actuellement à la maison d'arrêt. Voilà, c'est un peu des détails, mais j'imagine que quand t'es en prison, c'est un peu important, quoi. Donc voilà, sinon on voulait dire aussi que cette semaine, jeudi, il y avait deux personnes qui passaient au prétoire à la maison d'arrêt parce qu'ils sont accusés, enfin ils sont soupçonnés d'avoir bu de l'alcool en prison. Du coup on se demande s'ils ont écouté là notre dernière émission de Vacarme en Réunion. Voilà. Et du coup le prétoire c'est l'espèce de tribunal interne à la prison. Qui se passe du coup à huis clos au sein même de la prison, où t'es jugé par une juridiction qui fait partie de ta hiérarchie, enfin, qui fait partie de la prison. T'as le droit d'avoir un avocat, mais voilà, ça se passe dans un cercle qui est relativement fermé, et du coup, ça fait que les verdicts qui sont rendus sont en général assez vénères, quoi, et que t'as peu de possibilités de te défendre au sein de ce tribunal. Du coup, ça s'appelle le prétoire, et c'est ça qui va, par exemple, envoyer des détenus au mitard. Donc, l'espèce de... Comment on peut expliquer ce que c'est le mitard ? C'est un truc d'isolement, dans lequel... t'as plus le droit de sortir en promenade, t'as plus le droit d'avoir de visite, t'as plus le droit d'avoir tous les trucs que t'as dans ta cellule habituellement, les bouquins, la télé, etc., quoi. Apparemment, au mitard, la seule radio qui est écoutée, c'est que tu peux capter, c'est Radio Campus, du coup, voilà, on espère qu'ils nous écoutent. Et du coup, cette semaine, il y a deux prévenus qui passent au prétoire, qui sont soupçonnés d'avoir bu de l'alcool dans leur cellule. Du coup, bah, s'ils nous écoutent, on essaye de leur donner de la force et on va réfléchir un peu si on peut faire des choses pour eux. Et de la même façon, en ce moment, apparemment, il y a Walid qui est en ce moment même au mitard. Il y a Samir et Walid qui sont deux détenus de la maison d'arrêt, qui sont passés en procès, mais cette fois-ci au pénal, cette semaine. Ils sont accusés de violence sur un surveillant. Ce qui s'est passé, c'est que il y a Walid, je crois, qui est monté sur un radiateur pour faire signe à son frère qui était dans la cour de la prison. Et il y a un surveillant qui a essayé de le faire descendre du radiateur un peu violemment. Et du coup, lui, il s'est dégagé. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais au final, il y a le surveillant qui s'est retrouvé à terre. Et du coup, il y a un pote de Walid, du coup, j'imagine Samir, qui est accusé de lui avoir porté des coups de pied. Pendant que lui il était à terre. Et du coup ils ont été jugés pour ça cette semaine. Et du coup c'est vraiment un tout petit incident, comme on imagine qu'il peut en arriver plein dans des rapports de force qui se passent quotidiennement entre les prisonniers et les surveillants. Et pour ce tout petit incident qui a dû durer 5 minutes, Samir il vient de se prendre 9 mois ferme en plus, et Walid il vient de se prendre 5 mois ferme en plus. Et du coup Walid est en plus de ce jugement au pénal, il se prend la juridiction interne à la prison, puisqu'il est enfermé dans le mitard en ce moment. Du coup voilà, on voulait dire qu'on pensait à eux, on espère qu'ils nous écoutent, et on a une chanson à leur dédicacer. C'est Ice Lemsi, et le titre de la chanson c'est Bitume Attitude. Et du coup c'est une chanson qui est dédicacée pour Is, pour Ous, pour Twill et Walid, du coup, qui est dans le mitard. Et le message qu'il fallait leur faire passer, c'est ça: faut que vous gardiez la pêche, parce que tout passe dans la vie, et oubliez pas que la roue elle tourne et que c'est chacun son tour, et un jour ou l'autre vous serez libérable, Inch'Allah les gars. Voilà. Et c'est aussi pour Riyad de Sens qui vient d'avoir une fille. Et du coup, bah, félicitations à toi.
Enchaîner ça par une lecture de L'instinct de mort de Jacques Mesrine. L'instinct de mort, c'est l'autobiographie de Jacques Mesrine qu'il a écrit pendant qu'il était en QHS à Fleury-Mérogis.
QHS, c'est quartier de haute détention.
De haute sécurité. Et il a, du coup, le bouquin est sorti en 77. Alors, l'extrait, c'est le récit d'une évasion qu'il a faite quand il était dans une prison du Québec avec un pote à lui. Et il a réussi à s'évader de la prison et il est retourné quelques jours après attaquer la prison. Il était enfermé dans les quartiers de haute sécurité là-bas aussi. Et cet acte-là a mis en lumière ce que c'était que les quartiers de haute sécurité et a permis à ce qu'ils soient fermés au Québec.
Attends, il est retourné attaquer après ?
Ouais, ouais.
Comment ça ?
Bah, il est allé chercher des armes et il est allé attaquer la prison.
Et ça a réussi ? Enfin, il y a des gens qui sont échappés après.
Il y a quelques personnes qui ont réussi à s'échapper, mais il n'a pas réussi. Ce qu'il voulait, c'était que tout le monde réussisse à se barrer.
Waouh, d'accord.
Donc, on va écouter la lecture maintenant.
Nous avions plus d'un mètre de neige. Tout de suite, Jean-Paul Mercier devint un inséparable. Nous avions les mêmes visions des choses. Je le savais capable d'aller à la limite de l'incroyable. Pendant une promenade, je pris Jean-Paul à part. « Écoute, fils, il faut trouver quelque chose. Quitte à y laisser notre peau, il faut trouver le moyen de franchir ces maudites clôtures. »«
Tu veux dire pendant la promenade ?»«
Oui, en plein jour. »«
Mais c'est du suicide. »«
Ici, on crève. Ça changera quoi ?»«
Rien, t'as raison. D'accord, Jacques. Alors fixons-nous une date limite. Sinon, nous allons devenir dingues à trop réfléchir. »«
Avant l'automne. On est dehors ou on oublie tout, ok ?»«
Ok. »
Je le regardais en souriant et lui tendit la main pour sceller notre engagement. Dehors ou mort, quitte à s'arracher la gueule dans les barbelés. Nous allions tenir notre promesse. Nous avions remarqué que pendant notre promenade, certains gardiens des Miradors sommeillaient, et cela principalement le lundi matin. Nous en avions conclu qu'ils buvaient trop le dimanche. Pendant plusieurs semaines, nous étudiâmes cette faiblesse humaine pour vérifier l'inattention des hommes chargés de nous garder. À plusieurs reprises, j'avais jeté une balle de tennis près de la clôture et avais franchi la ligne blanche sans provoquer aucune réaction des Miradors. La faille était là, à nous de l'exploiter. Nous avions noté 5 noms de gardiens. Jean-Paul était surexcité.
Tu t'imagines, Jacques, si 2 des 5 se trouvaient au Mirador un lundi matin ? Comment tu vois les choses ?
Il nous faut du matériel pour couper les clôtures. Tu es à l'atelier métal. À toi de trouver une solution. Penses-tu pouvoir substituer des lignes triangulaires ? Si oui, tu me récupéreras de la limaille de fer et je peux te garantir que les fosses que je te ferai seront une imitation parfaite.
Et pour les sortir de l'atelier ? Là, c'est impossible. Ni toi, ni moi n'y arriverons.
Ce n'est ni toi, ni moi qui allons les sortir, mais Gauthier lui-même.
Non, tu rigoles ou quoi ? C'est le chef de la sécurité.
Et justement, il ne pensera jamais à ce que je lui prépare. Jean-Paul était écroulé de rire.
Oh oui, alors celle-là, c'est la meilleure, la belle, avec la complicité du chef de la sécurité. Ok, Jacques, ok. Je vais faire mon possible pour les limes.
Petit à petit, notre projet prenait forme. J'en avais parlé à tous nos amis, car il nous fallait la complicité totale des deux ateliers pour réussir ce début d'opération. Tout se passa comme prévu. Le 21 août 1972, nous sortîmes dans la cour de promenade. Mes amis se mirent en place pour surveiller l'attention que les gardiens nous portaient. Chaque geste qui donnait l'apparence d'être naturel était un code et avait une signification pour moi. Un gardien se tenait à l'extérieur des clôtures sur notre droite. Son chien était assis à ses pieds. Il était armé d'un calibre 12 à pompe, bourré de chevrotine. Il était en conversation avec le garde du mirador de droite qui, par conséquent, nous tournait le dos. Le garde du mirador de gauche somnolait. J'avais posé le jeu d'échecs sur le rouleau qui servait à aplatir le terrain de tennis. Depuis un mois, je faisais ce geste régulièrement pour que les gardiens prennent l'habitude de nous voir jouer à cet endroit. Deux de mes amis me faisaient face. Jean-Paul était accroupi derrière eux. Nous étions contre le mur, à seulement 15 pieds de la clôture gauche. Lafleur s'était assis sur le tas de sable qui se trouvait face au mirador de gauche et faisait semblant de lire. Un autre ami faisait des mouvements de gymnastique à hauteur du mirador droit. Ces mouvements pouvaient devenir des signes codés en cas de danger. Je fis le tour de la cour des yeux. Tout était ok. « Maintenant, fils, vas-y !» Jean-Paul, en souplesse, avait franchi la ligne blanche et s'était aplati sur le sol, la face contre la clôture. Il ne faisait pas un seul geste. Sa tenue de couleur verte se confondait avec l'herbe du sol. Aucune réaction des miradors. L'homme au chien était toujours en conversation. Jean-Paul ne devait couper que sur mon ordre. Il était mes mains, j'étais ses yeux. La moindre erreur, et c'était l'échec. « Vas-y, coupe !» Avec sa lime triangulaire, il sectionna maillon par maillon dans le sens de la hauteur. En 10 minutes, le passage était suffisant pour laisser passer un homme. Je le vis s'engager entre les barbelés des deux clôtures. Si un seul des gardiens l'apercevait, il était mort. C'était certain d'être abattu sur place. Mais froidement, il continuait son travail. À l'instant où il allait entamer la seconde clôture, j'entendis la voiture de patrouille qui arrivait. « Ne bouge pas! Surtout, ne bouge pas !» Elle passa sur la route qui entourait toute la promenade extérieurement. Jean-Paul vit les pneus à moins de 4 pieds de sa figure. Elle continua sa route pour stopper devant le mirador de gauche. Si par malheur, un des gardiens de l'autopatrouille sortait avec le chien qui les accompagnait, tout pouvait arriver. L'homme du mirador se pencha pour saluer le chauffeur. Nos nerfs étaient mis à dure épreuve. Nous étions si près du but. Quand la voiture repartit, j'attendis un instant. Puis dis à Jean-Paul. « Ok, fils, continue. » Il se remit au travail, le plus calmement du monde. Puis je le vis ramper vers l'extérieur. Il avait réussi à passer de l'autre côté. Le corps collé contre la clôture, il me lança.
À toi, François.
Mes amis firent une diversion. À mon tour, je franchis les deux ouvertures en rampant. Je ne pensais qu'à une chose. J'allais être libre. Nous étions d'accord avec les amis pour partir deux par deux. Le premier départ nous était revenu de droit. Nous en avions accepté tous les risques, et ils étaient grands. Car si nous étions repérés, c'était la mort certaine, abattus comme des chiens par des gardiens vindicatifs. Mais une mort d'homme libre, d'homme qui avait fait son choix. Aucune peur ne m'habitait. Seule une grande détermination guidait mes gestes. Je me retrouvais allongé à côté de Jean-Paul. Nos mains se rencontrèrent. Elles scellèrent une amitié qui ne se démentit jamais. Jusqu'à la mort, sa mort 3 ans plus tard, abattue par la police de Montréal. Il nous fallait franchir la route. Nos tenues risquaient de trancher avec sa couleur claire. Une nouvelle diversion fut faite à mon signal. J'apercevais mes amis, encore prisonniers, ceux qui avaient cru en notre projet et ceux qui en avaient toujours douté. Je me promettais de ne pas les oublier et de tenir ma promesse d'attaquer ce pénitencier pour tenter de les libérer tous. En roulant sur nous-mêmes, d'une façon rapide, nous réussîmes à atteindre le fossé. L'herbe était haute et nous nous confondions avec la verdure. Le dos tourné au mirador, nous nous mîmes à ramper. J'aperçus le 3e mirador qui faisait angle avec l'entrée. En imaginant la gueule qu'allait faire Gauthier, je ne pus retenir un sourire. Il nous fallut ramper pendant plus de 300 pieds avant d'atteindre un bosquet où nous pûmes enfin nous relever à l'abri des regards. Jean-Paul me tapa la tête amicalement.
On a réussi, Français. Tu te rends compte? On est libre.
Faisons vite, fils. Il nous faut une voiture.
Voilà, c'était une des évasions de Jacques Mesrine racontée dans L'instinct de mort. Pour finir, on en a vraiment trop marre d'avoir encore lu dans le journal que la défense de Samir et Walid avait consisté à dire qu'ils étaient immatures et impulsifs. C'est leurs avocates qui les ont défendus comme ça. On en a vraiment trop marre que les 3/4 des défenses faites par les avocats consistent à dire que leurs clients c'est des blaireaux, que c'est des pauvres mecs dont il faut avoir pitié, alors qu'il y a quand même moyen des fois de faire des bonnes défenses pénales, même si on en a un peu rien à foutre de la loi, mais de au moins aller chercher les failles du dossier, et que c'est comme ça qu'on constitue une bonne défense et pas en disant qu'il faut vraiment avoir pitié de son pauvre client qui savait pas ce qu'il foutait. Et du coup, on se disait qu'il y avait un des moyens d'essayer de s'organiser différemment, c'était peut-être de faire appel à la Caisse de solidarité pour réfléchir à plusieurs, à monter des défenses communes et à trouver des avocats un peu meilleurs que ça. Du coup, si jamais vous avez des problèmes, que vous voulez changer d'avocat, que c'est la merde ou je sais pas quoi, vous pouvez contacter la Caisse de solidarité contre la répression. Vous pouvez lui écrire à caisse-de-solidarité@brassicanigra.org ou alors vous pouvez les joindre au 07 50 18 13 21. 07 50 18 13 21. De toute façon, on remet toutes ces informations-là en ligne sur le site de l'émission qui est tvnr.noblogs.org. Voilà, et ben c'est tout pour cette semaine. On va finir par la chanson White Walls de Michael Moore et Ryan Lewis, qui est pas notre chanson préférée, mais c'est Jean Baron qui nous l'a demandé. Et puis Jean, et ben il est en détention à la maison d'arrêt, et du coup on se disait que si ça pouvait lui donner un peu de courage d'entendre ça, ben voilà, c'est pour lui et tous les autres types à qui on a essayé de parler aujourd'hui. Tenez bon les gars, et puis nous on se retrouve dans 15 jours et la semaine prochaine c'est Terrain Vague. Voilà, ciao.
Be free, I wanna just live inside my Cadillac. That is my shit, and I'll throw it up.
Throw that up.
That's what it is.
That's what it is.
In my CADILLA.
AC bitch. Can't see me through my tents. I'm riding real slow. And my paint wet, dripping, shining like my 24s. I don't got 24s, but I'm on those Vogues. That's those big white walls. Round them 100 spokes. Old school like old English in that brown paper bag. I'm rolling in that same whip that my granddad had. Hello, haters. Damn, y'all mad. 30K on the caddy, now how that pack rap is that? In some shit, Bernie Mac would have been prouder. Looking down from heaven like damn, that's stylish. Smiling, don't pay attention to the mileage. Can I hit the freeway illegally going 120? Easy weaving in and out of the traffic. That cannot catch me, I'm smashing, I'm ducking, bucking. I'm out here, I'm looking fucking fantastic. I am up in the classic, now I know what it's like under the city lights. Riding into the night, driving over the bridge, the same one we walk across as kids. Knew I'd have a whip, but never one like this. Old school, old school. Candy paint, two-seater. Yeah, I'm from Seattle. There's hella Honda Civics. I couldn't tell you about paint either. But I really wanted the caddy, so I put in the hours. I moved up over to the dealer and I found the car dreamer. As I bought him with the skeezer, got the keys, and as I was leaving, I started screaming.
I got that old black Cadillac.
White hoes in the backseat, snorting coke. She doing line at the...